Osmose Radio.
Osmose.
La web radio.
L'heure du loup.
Le meilleur des musiques sombres.
Sur Osmose Radio.
I got the spirit, I lose the feeling. J'ai toujours l'esprit, mais j'ai perdu un petit peu les sensations du micro, du studio, de la radio. Mais quel bonheur de vous retrouver, mes petits loups. Soyez les bienvenus dans l'heure du loup sur Osmose Radio. Vous êtes bien avec Stéphane pour une reprise de cette émission après cette longue période de confinement. Moi, je m'en fous. J'étais dans mon antre. Le Covid n'est pas venu m'embêter là-dedans. Mais je me dis que pour vous, les humains, ça a dû être difficile à supporter. Quant à Nourdine, le gentil régisseur d'Osmose Radio, lui, de toute façon, il y a trop de MST dans son organisme, jamais un virus n'irait se risquer là-dedans. Donc le duo est constitué pour cette émission ce soir en studio et c'est un bonheur de vous retrouver, disais-je, et on ouvrait avec ce titre de Joy Division, Désordre, histoire de vous mettre un petit peu de désordre dans les oreilles. C'est mon vice, vous me pardonnerez, et je suis sûr qu'en plus vous aimez ça, bande de petits sacripants. Et du coup, on va continuer ce soir dans une playlist un petit peu thématique, une émission spéciale consacrée justement à ce groupe-là, Joy Division, dont il était question il y a récemment, tout à fait, il y a pas vraiment pas longtemps, puisque cet homme-là nous avait quitté en mai 1980. C'était donc récemment les 40 ans de sa mort et consécutivement de la fin du groupe Joy Division. Par conséquent, il y a eu quelques articles, quelques bouquins qui sont sortis, des rééditions d'albums, tout ça. Et c'était le moment ou jamais d'en parler un petit peu plus que je ne l'avais fait jusqu'à présent. Donc ce soir, ce sera une émission consacrée entièrement à ce groupe-là. Et tiens, puisqu'on est en période de déconfinement progressif, nous autres, hein, en 2020, qu'on peut quitter notre département, qu'on peut aller au-delà de 100 km, hein, qu'on peut un petit peu quitter sa zone de confort, eh bien, je vous propose tout de suite le morceau Interzone. Un bon son bien agressif qui, ironiquement, était inspiré d'un morceau de soul music, la soul music qui était très populaire à Manchester dans les années 70 parce que, comme c'était une ville ouvrière, il y avait une grande communauté immigrée. Mais bon, je ne vais pas épiloguer sur le sujet puisque là, à l'instant, on écoutait un morceau qui a été enregistré sur le label RCA en 77, je crois, et qui finalement n'avait jamais été exploité. Hein, le groupe n'était pas très à l'aise. Et par conséquent, cet enregistrement-là, on l'a découvert seulement dans les années 90. D'ailleurs, il y a pas mal de trucs dans la discographie de Joy Division qui est courte, hein, qui court sur 4 ans d'existence du groupe et qui pourtant est foisonnante et qu'on a redécouvert beaucoup plus tard dans les années 90 ou 2000 quand les trucs ont été réédités. Voilà, chers amis. Mais bon, je vous parle de Joy Division. C'est un groupe culte, s'il en faut, de la scène punk de la fin des années 70 et c'est un groupe qu'on considère comme l'inventeur du post-punk. J'y reviendrai plus tard. Mais je vais quand même rappeler quelques fondamentaux qui sont ceux qui connaissent sans connaître, j'en suis sûr, puisque c'est un groupe majeur, on connaît forcément certains morceaux, mais le groupe, le nom du groupe, le nom du chanteur, Ian Curtis, Joy Division, tout ça, ça n'évoque pas forcément grand-chose aux néophytes. Et par conséquent, bah, Joy Division, c'est un groupe de Manchester de la fin des années 70, donc déjà, ça pose un petit peu le contexte. Hein. C'est-à-dire que Manchester, c'était vraiment la grande ville industrielle du 19e siècle, de la révolution industrielle, du grand capitalisme, tout ça, et qui, dans les années 70, bah, était un petit peu, c'est un retour de bâton, était un petit peu déconfite, quoi, désindustrialisation, beaucoup d'usines en ruine, beaucoup d'immeubles abattus pour construire des barres de HLM en béton. Donc on passait de la brique rouge dégueulasse au béton gris grisâtre et sale. Et tout ça dans la fin des années 70 où bah, c'est un petit peu la fin des illusions du swinging London des années 60, tout ça. Donc double raison, si j'ose dire, sans vouloir snobber les Anglais, deux raisons en fait de déprimer dans ce paysage grisâtre de cette époque-là pour les gens qui habitaient les mancuniens, comme on les appelle. Et le groupe groupe s'est créé tout d'abord autour d'un duo qui s'appelait deux garçons en fait, qui étaient potes d'enfance, Peter Hook, qui est plus tard devenu bassiste, et Bernard Sumner, qui après un concert des Sex Pistols en 1976 à Manchester, avait décidé de créer un groupe, de se lancer un petit peu en musique, puisque leur avenir à eux, en l'occurrence, et ils le savaient très bien, comme tous les fils d'ouvriers sur place à l'époque, c'était soit le chômage, soit l'usine. Donc en gros, tu faisais partie de l'armée de réserve du capital, si j'ose dire, et ton avenir était tout tracé et pas spécialement enthousiasmant. Et du coup, après ce concert des Sex Pistols, où, ironie du sort, en fait, il y avait peut-être 30-40 personnes dans la salle, mais des personnes qui ont beaucoup compté sur la scène musicale de Manchester dans les années à venir, dans les années suivantes, ce concert qui finalement était assez confidentiel est devenu mythique parce qu'il a décidé de vocation de nombre de groupes de Manchester à l'époque. Et donc, Johnny Rotten et ses petits camarades, sans forcément faire exprès, ont inspiré pas mal de vocations, notamment ceux de ce qui allait devenir Joy Division. Alors, donc Peter Hook, Bernard Sumner, autour de ce duo, ils ont passé une petite annonce et ils ont été contactés par un garçon, un espèce de grand dadé timide, mélancolique, qui s'appelait Ian Curtis, un grand type aux yeux clairs. Je vous mettrai quelques images de sa frimousse sur internet pour que vous puissiez vous en faire une idée. Il avait vraiment une gueule d'ange et en même temps il avait parfois aussi un caractère bien trempé. Et un petit peu plus tard, ils ont été rejoints par un bon batteur du nom de Stephen Morris. Donc en un petit peu moins d'un an, le Quator était formé, et dans ce contexte un petit peu grisâtre de l'Angleterre de l'époque, ils ont réussi à créer ce groupe qui disait, je disais, est l'inventeur du post-punk. Pourquoi ? Parce qu'en 75-76, il y a eu l'explosion du punk, notamment avec les Sex Pistols, qui sont devenus emblématiques de cette tendance musicale, mais il n'y avait pas que, à Manchester, il y avait aussi les Buzzcocks, par exemple, et ils ont eu une portée immense en faisant mûrir, en fait, ce style musical assez juvénile et assez qui éructait beaucoup sur scène, mais qui n'allait pas forcément beaucoup plus loin, et ils ont rajouté de la mélancolie, de la réflexion, de la poésie dans tout ça, pour en faire quelque chose d'autre. On a appelé ça le post-punk, CQFD, voilà. Et les destinataires de tout ça, et ceux qui profitent de la portée immense de l'œuvre de ce groupe, c'est nous. Du coup, par-delà les années, 40 ans plus tard, on en parle encore. Alors au début, le groupe s'appelait les Steve Kittens, un nom un peu pourri, enfin qui correspondait un petit peu à la dynamique de l'époque en matière de création de groupe punk. Puis en fait, Ian Curtis était très influencé par David Bowie, qui l'année précédente avait fait un album à l'esthétisme glacé, très inspiré de la mélancolie de la Mita et l'Europa, et un album qui s'appelait Warsaw, en fait, référence à Varsovie, hein, où il y avait pas mal d'agitation à l'époque, dans les années 70. Et puis finalement, en fait, il y avait un conflit d'intérêts avec un autre groupe qui s'appelait peu ou prou comme ça, et puis le nom leur convenait pas. Donc après leur premier concert, ils ont choisi un autre nom de groupe et ils en sont venus à Joy Division. D'où ça vient, ce nom-là? Mais en fait, ça vient d'un roman, en fait, qui était sorti à l'époque, enfin un roman, un témoignage, The House of Dolls, qui parlait des bordels militaires dans l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. La maison des poupées, hein, c'est comme ça qu'on appelait pudiquement les bordels pour la Wehrmacht, un petit peu comme les maisons de plaisir qu'il y avait en Corée pour les soldats japonais, pour vous donner un ordre d'idée. Et du coup, tout ça, c'était un petit peu le contexte de l'époque aussi, où l'Angleterre cultivait la mémoire de la victoire de la Seconde Guerre mondiale. Les politiques, les historiens disaient aux gens que l'Angleterre, le Royaume-Uni avait résisté comme un seul homme à l'invasion nazie. En fait, c'était loin d'être vrai, et à l'époque, dans les années 70, l'historiographie montrait que c'était pas tout à fait aussi simple que ça. Et du coup, en même temps, peut-être que dans la mentalité des jeunes gens de l'époque, ce qu'on allait appeler les pretty young men, enfin les jeunes gens modernes en d'autres termes, s'il y avait peut-être un parallèle à faire entre l'armée de ceux qui allaient à l'usine, qui était là l'avenir qu'on leur promettait à eux, les fils d'ouvriers, et les soldats de la Seconde Guerre mondiale qui, eux, marchaient en ligne pour aller au front. D'ailleurs, c'est l'objet du morceau avec lequel on va continuer tout de suite. Joy Division, They Walked in Line.
To pass the time, wearing the shame of all their crimes with
Warsaw, mais non, vous n'étiez pas en Pologne, vous étiez dans le nord de l'Angleterre à l'instant avec ce titre de Joy Division, Warsaw, qui était sorti sur un petit EP qu'ils avaient autoproduit qui s'appelait An Ideal for Living, et s'était enchaîné juste avant avec un autre titre qui était sorti sur un de leurs premiers enregistrements. J'ai plus le... Je vous ai donné une version un petit peu plus chiadée, mais en grosso modo c'était un morceau assez ancien de leur discographie, et c'était They Walked in Line. Voilà, ils marchent en ligne pour aller à la mort ou à l'usine, c'est peut-être la même chose, allez savoir. Warsaw, en fait, il y a une petite anecdote qui permet de mettre un petit peu en lumière l'état d'esprit dans lequel ils abordaient parfois la musique à ce moment de leur carrière, c'est-à-dire au début en 76-77. Au début, on entend un matricule, en fait, plusieurs chiffres que Ian Curtis hurle avant le morceau. Et en fait, ce matricule, il n'est pas innocent, c'est le matricule du nazi Rudolf Hess. Cet homme-là, en fait, c'était le secrétaire de Hitler. Et en 1941, personne ne sait trop pourquoi, il a pris son avion et il est allé en Angleterre, soi-disant pour négocier une paix séparée avec l'Angleterre, histoire de se retourner, que l'Allemagne nazie puisse se retourner contre l'Union soviétique. Et du coup, ça a pas mal fait gamberger les historiens. Comme je vous disais tout à l'heure, il y avait une propagande énorme après-guerre où on expliquait aux Anglais que leurs ancêtres avaient résisté comme un seul homme. Mais en fait, c'est pas tout à fait vrai. Il y avait peut-être que Churchill qui était comme ça. Et il semble que dans la famille royale notamment, il y a eu beaucoup d'hésitation à faire une paix de compromis avec Hitler, histoire de ne pas se faire envahir, tout simplement. Aujourd'hui, on connaît la fin de l'histoire, mais à l'époque, ils ont pas mal flippé. Et du coup, voilà, c'est l'historiographie travaillait un petit peu sur ces sujets à l'époque. Et Ian Curtis, qui était un garçon très cultivé, qui lisait beaucoup, qui s'intéressait à tous ces sujets-là, et aussi par le goût de la provocation qu'il y avait à l'époque, ce goût très très punk et un petit peu puéril, il faut le reconnaître, de choquer le bourgeois en ayant des références nazies, sans forcément partager les idées, évidemment ça va de soi, mais en faisant des petits pics à l'establishment à ce niveau-là, citer le matricule de Rudolf Hess, ça se situe dans cet ordre d'idées. Et du coup, que vous avez pu en avoir un exemple supplémentaire avec les deux morceaux qu'on a écoutés, c'était un garçon qui avait du talent. Les morceaux sont plutôt bien foutus. Les textes, on y reviendra, étaient vraiment bien écrits. Ian Curtis écrivait ça lui-même. Et pourtant, je persiste à croire que malgré tout leur talent à ces quatre jeunes gens, s'ils n'avaient pas eu des gens pour les aider, ils seraient restés un très bon groupe local de Manchester, mais pas plus. Et on n'en parlerait pas aujourd'hui. Simplement, ces quatre jeunes gens ont eu autour d'eux une nébuleuse de gens qui les ont aidés à devenir ce qu'ils sont devenus, à savoir le groupe mythique Joy Division. Il y en a eu plusieurs. Alors, il y a peut-être Rob Grating qui a été leur manager et qui, très rapidement, quand il les a pris en main, leur a dit non, mais virez cette putain d'imagerie nazie parce que ça va vous porter préjudice. Les gens vont vous assimiler, vont pas comprendre le second degré et ça va être pourri. Et en fait, ça, c'était un bon conseil. Par exemple, sur la pochette du EP An Ideal for Living, il y avait un garçon qui joue du tambour avec un uniforme des jeunesses hitlériennes. À la rigueur, quand on connaît un petit peu le background des musiciens, ça fait rire parce qu'on sait que c'est de la provoque. Mais les gens qui ne les connaissent pas ne pouvaient pas forcément comprendre ça. Et du coup, il leur a dit d'arrêter ces conneries. Il a eu raison. Il y a eu d'autres garçons qui ont compté aussi beaucoup pour eux, notamment le photographe Anton Corbijn qui a fait tous les clichés mythiques où il y a un petit peu cette apparence un peu mystique, un petit peu christique même, je dirais. Diane Curtis, quand il est sur scène avec ses yeux clairs, son expression un peu halluciné, tout ça quand il est sur scène, tout ça participe beaucoup de la personnalité, de l'ambiance et des concerts et un petit peu de l'image qui nous en est restée. Mais je pense qu'il y a surtout un triumvirat qui est un petit peu au cœur du succès de ces jeunes gens, sans diminuer leur mérite à eux-mêmes. Tout d'abord, il y a Peter Saville. Il y a Tony Wilson, excusez-moi. Tony Wilson, Anthony Wilson, en fait, qui était un animateur sur une chaîne de télé locale qui s'appelait Granada et qui avait les relations, qui avait le bagou et qui avait le talent pour dénicher des groupes qui étaient prometteurs. Et il les faisait passer dans son émission de télé. Et la télé, à l'époque, il n'y avait pas Internet, il y avait le bouche à oreille. Et du coup, la télé, c'était vraiment le média de référence. Et par conséquent, il a permis à Joy Division et à d'autres groupes de l'underground de l'époque de prospérer, et c'est tout à son honneur. C'est aussi Tony Wilson qui a contribué à créer le label Factory, donc usine, qui a permis à Joy Division et à tant d'autres groupes de prospérer en leur donnant un cadre et en les aidant à produire leurs albums, en trouvant le blé pour ça aussi beaucoup, etc., etc. Et dans la Factory, il y avait aussi un producteur vraiment, vraiment primordial pour Joy Division, ça a été Martin Annett, un espèce de trou du cul, un espèce de de petit dictateur de studio, mais alors un génie des manettes. Et il a su insuffler à la rage punk et presque adolescente, parce que c'était des gens très jeunes, ils avaient autour de 20 ans, à ces quatre jeunes gens de Joy Division, il a réussi à insuffler un esprit un petit peu plus... des ambiances plus éthérées, plus froides, même carrément glaciales, et parfois même un petit peu hiératiques, en torturant les sons, etc. Pour l'anecdote, par exemple, il y a un moment, quand ils ont enregistré l'album Unknown Pleasure en 77, eh bien, il a demandé au batteur de démonter sa batterie et d'aller la remonter sur le toit pour jouer en plein air, pour avoir des sons de batterie un petit peu différents. Voilà pour l'anecdote, et ça a donné... D'ailleurs, ça donnera des sons que vous entendrez tout à l'heure et qui sont tout à fait singuliers pour un groupe de punk. Et enfin, il y a Peter Saville qui a été le graphiste. Il avait fait les Beaux-Arts et il a été le graphiste du label Factory. Il a donné aux pochettes d'albums un côté vraiment, vraiment particulier et unique qui participait de la personnalité non seulement du label, mais aussi du groupe. Voilà. Et je vous disais, Tony Wilson, ça a été un des gars les plus importants. Il y a une citation qu'il a eue à propos de Joy Division qui, moi, m'a pas mal fait gamberger. Il disait quand j'organisais des concerts dans Manchester pour faire un petit peu la promotion des groupes underground, et bien tous les garçons qui montaient sur scène, c'était des mecs qui voulaient devenir des rockstars. Voilà. Ils avaient cette ambition. Joy Division, pas du tout. Quand ils montaient sur scène, c'est pas qu'ils voulaient devenir ceci ou cela, c'est ils montaient sur scène parce qu'ils n'avaient pas le choix. Parce que c'était viscéral, ils avaient besoin d'être là. Alors ça pourrait paraître quelque chose de tout à fait anecdotique, ça pourrait paraître une phrase un peu creuse de journaliste rock. Et en fait, pour moi, ça résonnait particulièrement quand j'ai fait un parallèle avec une autre citation de Rainer Maria Rilke, celle-ci. Une citation qui dit qu'en art, en règle générale en art, quand tu récites un poème, quand tu chantes une chanson et que tu récites un vers ou que tu fais une note, si le fait de ne pas pouvoir la sortir sur le moment-là, ça ne te donne pas envie de crever, eh ben c'est pas le bon vers, c'est pas la bonne note, c'est pas la bonne chanson, quoi. Et du coup, quand tu mets les deux citations en parallèle, en fait, ça te permet d'éclairer un petit peu sur ce qu'il y avait de viscéral dans non seulement dans les textes de Diane Curtis, mais plus généralement dans la musique de Joy Division, parce qu'ils avaient vraiment besoin de ça, et c'est pour ça qu'il y a quelque chose d'aussi intense et d'aussi touchant dans leur musique aussi. Voilà. Et par conséquent, pour vous donner un petit peu une illustration de cette ambiance de Manchester de l'époque, du travail de Martin Annette sur les sons de batterie notamment, et sur le chant un petit peu hiératique de Ian Curtis, et bien je vous propose tout de suite un extrait de l'album Unknown Pleasure qu'ils ont sorti en 1978. Tout de suite on écoute Shadowplay. We'll be right back. She's Lost Control à l'instant avec le groupe Joy Division et la voix reconnaissable entre toutes, Diane Curtis s'est enchaînée juste avant avec un titre là aussi mythique, un de mes préférés, Shadowplay, tiré de l'album Unknown Pleasures. Cet album dont je vous parlais, dont le graphisme avait été fait par Peter Saville et qui en fait, dont la couverture est devenue mythique en fait, le graphisme de cette pochette d'album est devenu culte en quelque sorte parce qu'il représente, ce sont des lignes un petit peu déformées qui s'accumulent et qui donnent une impression de perspective et qui dessine tantôt une montagne, tantôt une forme d'onde sonore par exemple. Enfin, chacun y voit un petit peu ce qu'il veut, c'est comme la lune. Et en fait, bah, l'idée qui venait de ça, en fait, c'était un truc scientifique, c'était une représentation graphique du son venu du fin fond de l'espace, puisque c'était l'écho en fait, d'un pulsar tel qu'il avait été perçu par les radars sur Terre. Voilà, un pulsar, donc une étoile morte, il y a quelques milliards d'années-lumière. Et du coup, voilà, de ce truc... cosmique un petit peu, ben ils ont fait une pochette d'album qui a été parodiée à peu près 10 milliards de fois et que vous connaissez forcément parce que je répète, le visuel est absolument mythique et il contribue à la personnalité et au genre de musical de Joy Division. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Osmose Radio, chers amis. Vous êtes bien avec Stéphane, vous êtes bien avec Nourdine, vous êtes bien dans l'heure du loup. Ce soir, c'est une émission consacrée au groupe fondateur du post-punk Joy Division, mené par Ian Curtis qui, hélas, s'est suicidé en mai 1980. Il y a donc 40 ans, voilà, et She's Lost Control, ben ça c'est une chanson qu'Ian Curtis avait écrite dans un contexte un petit peu particulier, parce qu'en 78, ben, il ne vivait pas de la musique les gars évidemment, mais en 78 il travaillait dans des services sociaux, dans l'équivalent de Pôle emploi en quelque sorte, et il recevait notamment des travailleurs handicapés pour s'assurer qu'ils touchaient bien leurs allocs et qu'on leur proposait des offres d'emploi qui étaient calibrées pour eux. Et un jour il a eu une fille qui était épileptique et qui a fait une crise dans son bureau, et lui il ne savait pas du tout ce que c'était, et il a été totalement décontenancé, il a essayé de la ranimer. animé, il a pas pu et tout, et la fille, bon, a été hospitalisée, mais elle est morte par la suite, et ça l'a apparemment beaucoup, beaucoup affecté, et il avait sans doute des troubles avant, parce que c'est une personnalité un peu fragile, ce garçon, mais c'est à partir de ce moment-là, à partir de cet événement marquant dans sa vie, dans l'occurrence dans sa vie professionnelle et sa vie tout court, que Kyan Curtis a commencé à faire des crises d'épilepsie sur scène. Vous me direz, bon, avant 78, ils n'avaient pas eu l'occasion de faire beaucoup de scènes, certes, mais du coup, bah, c'est à partir du moment où ils ont commencé à faire des concerts que Ian Curtis a fait des crises d'épilepsie, qui a pas mal affolé le public, ses collègues, et Tony Wilson, et son manager notamment, voilà. Et je vais en revenir un petit peu plus profondément sur la personnalité d'Ian Curtis, parce que c'est quand même un personnage majeur, qui était... Tous les témoignages s'accordent à dire, tous les témoignages convergent, c'est impressionnant, que c'était un garçon charmant. Il était poli, bien élevé, gentil, bienveillant, prévenant, enfin, très très british à mes yeux, en quelque sorte. Hein. C'était vraiment un garçon adorable. Et en même temps, quand quelque chose n'allait pas dans son sens, quand on lui disait non, que ça n'allait pas, que sa volonté était un petit peu contredite, il réagissait comme un sale gamin et il t'insultait, il était grossier, il était vénère, revanchard, hargneux, capable d'être très très con, très très gros con d'anglais aussi à mes yeux là encore. Donc vous voyez, il avait un petit peu ces deux côtés dans sa personnalité. C'était un espèce de grand escogriffe avec une belle gueule, hein, je le répète, des beaux yeux et des bonnes manières. Et il y avait quelque chose dans sa personnalité qui était un petit peu ambigu comme ça. Je sais pas si on peut en conclure qu'il était bipolaire, je n'en sais rien. Toujours est-il que il y a un film qui s'appelait Control qui a été réalisé il y a une douzaine d'années qui marque un petit peu dans une scène le contraste entre ces deux façons de la personnalité d'Ian Curtis, c'est-à-dire que tu le vois sortir de chez lui pour aller au boulot, bien habillé, l'air avenant, une clope au bec, dans la rue, tranquille, et tu le vois, il y a un travelling, tu le vois qui marche de face, et à partir d'un moment, tu le vois de dos, et tu vois que dans son dos, il y a les lettres « hate », N, en quelque sorte, qui sont inscrites sur son blouson. Voilà, donc il avait ce côté très très gentil, et puis d'un autre côté, absolument capable d'être odieux, en tout cas odieux aux yeux des gens du bon bourgeois de l'époque qui le croisaient dans la rue. Voilà, donc en quelque sorte, pour résumer, là c'est une comparaison qui n'engage que moi, mais bon, les années 50 ont eu Boris Vian, les années 60 ont eu Jim Morrison, hein, comme poète rock maudit, et puis les années 70 ont eu Ian Curtis, à mon avis. Voilà, mais je répète, cette comparaison n'engage que moi. Et du coup, les textes aussi d'Ian Curtis étaient assez chiadés, c'était vraiment bien écrit, et c'était assez, comme je vous le disais, c'était un garçon un petit peu torturé, un garçon assez sensible, et qui était très cultivé, qui avait lu beaucoup de poésie, et du coup ça se ressentait un petit peu dans son écriture. Je ne vais pas vous donner des traductions de poèmes, enfin de textes, je vous en mettrai en ligne sur le Facebook de L'Heure du Loup si vous voulez en savoir plus, mais quelque part, il savait trouver des métaphores pour illustrer un petit peu ses états d'âme et la mélancolie, la solitude qu'on pouvait ressentir en marchant dans les rues de Manchester à l'époque, hein, la lumière grisâtre et puis les pensées un petit peu sombres qu'on pouvait avoir pour diverses raisons et que lui en tout cas ne manquait pas d'avoir, notamment dans le morceau qu'on va écouter tout de suite, New Down Fates.
See, a loaded gun won't set you free. National Front took to the streets of Manchester today in the biggest demonstration of neo-fascists since the 30s. Transport and General Workers Union tighten their stranglehold on the nation's petrol supplies, bringing the country to a grinding halt. Thousands of motorists queue all day amid rumors of fuel rationing and a return to the three-day week. Chaos in the public services as mountains of rubbish fill London's West End and nurses bring the hospitals close to collapse. Now gravediggers in Liverpool refuse to bury the dead.
À l'instant, un extrait d'une reprise d'un morceau de Joy Division, mais beaucoup plus tardif, par Peter Murphy, le chanteur du groupe Bauhaus, et Trent Reznor du groupe Nine Inch Nails, hein, deux pointures, l'un de la scène goth, l'autre de la scène industrielle, qui reprenait ce titre de Joy Division, Dead Souls. Et c'est enchaîné juste avant avec là un autre morceau classique, très très mélancolique, qui correspond bien à l'état d'esprit de Ian Curtis dans ces années-là. New Down Fates, qu'on écoutait juste avant. Et entre les deux, il y avait un petit intermède d'un très bon film de Michael Winterbottom qui s'appelait 24 Hours Party People, qui racontait un petit peu la vie de Tony Wilson et donc sa collaboration avec les jeunes gens de Joy Division. Et qui permettait un petit peu de comprendre, dans les intermèdes que vous avez entendus, la situation sociale de l'Angleterre de l'époque, avec les grèves qui n'en finissaient pas, les pénuries d'essence, les ordures qui s'accumulaient dans les rues, le bitume qui s'écroulait, les égouts qui étaient envahis par les rats, enfin bref, c'était vraiment un petit peu la zone, quoi, à l'époque, Manchester, voilà. Et je vous disais, Trent Reznor et Peter Murphy qui reprenaient Joy Division, ça me permet de mettre le doigt un truc qui est pas paradoxal mais qui est un petit peu insolite, c'est la fascination du public gothique pour Joy Division, qui lui-même n'est pas un groupe goth du tout, quoi. Le mouvement n'existait même pas à l'époque où il jouait, mais en fait tous les gothiques ont vraiment une fascination pour Ian Curtis en général et Joy Division Curtis en particulier et Joy Division en général, pardon, puisque bah, c'était une personnalité qui correspond un peu au côté romantisme noir de cette tendance musicale, d'une part, mais aussi parce que, ben, par exemple, le morceau qu'on écoutait à l'extrême, Dead Souls, faisait partie de la bande originale d'un film, pas terrible, mais qui correspond un petit peu à cette époque-là, bah, c'est-à-dire le God des années 90, c'était le film The Crow. Et du coup, on retrouvait cette reprise notamment là-dedans, tout ça pour souligner un petit peu l'intérêt du public goth pour ce groupe-là, ce qui n'était pas forcément gagné d'avance, mais qui existe bel et bien. Puisqu'on a un petit peu de temps aussi, je tenais à attirer votre attention sur deux trucs qui méritent d'être soulignés tout de même. Bah, là, pour signaler un paradoxe, là, par contre, eh bien, c'est la différence qu'il pouvait y avoir entre Joy Division, donc ces quatre jeunes gens qui étaient assez gamins, qui étaient assez bruts de décoffrage, fils d'ouvriers, je le rappelle, et qui sur scène pouvaient être des garçons assez bourrins, quoi. Et Martin Annette a fait du son sur album, c'est-à-dire A Non Pleasure en 78 et deux ans plus tard Closer, qui est sorti après la mort d'Ian Curtis. Et bien sur ces deux albums qu'il a produits, Martin Annette a incorporé des influences de Kraftwerk notamment, ou de Can et des groupes de krautrock du début des années 70, des trucs un peu expérimentaux, des sons un petit peu cosmiques ou industriels ou électroniques, et qui a permis d'étoffer un petit peu le son de ce groupe qui est devenu le son post-punk de référence en fait, grâce à Martin Annette. Mais du coup, ça crée un petit peu un espèce de paradoxe entre le son qu'il pouvait y avoir en concert et le son sur album. Voilà. Un autre truc un petit peu insolite, et je tenais à vous le dire quand même, c'est le son de basse de Peter Hook, qui joue souvent dans les aigus. Alors ça peut-être attirer vos attentions sur les morceaux précédents. C'est pas quelque chose d'incongru à l'époque, hein. Il y avait le bassiste de Queen aussi dans ces années-là qui jouait un petit peu dans les aigus, ou quelques autres groupes de glam rock un petit peu avant. Mais en fait, ce que Peter Hook a donné comme explication pour le fait qu'il jouait un petit peu sur les cordes aiguës, dans les sons aigus de sa basse, c'est que Bernard Sumner, ça le faisait chier, la guitare rythmique, donc il n'en faisait pas. Ian Curtis jouait de la guitare, mais il préférait se concentrer sur le chant et la danse aussi, parce que quand il dansait sur scène, il avait un côté un petit peu chamanique qui pouvait être impressionnant et qui participait de l'intensité des prestations scéniques du groupe. Et en même temps, il y a un autre truc dont il parle pas souvent, mais que j'ai trouvé assez rigolo, c'est qu'en fait, aux premières années où il répétait en 76-77, il avait un ampli de basse assez pourri, Peter Hook, et du coup, en fait, quand il donnait des notes trop graves, eh bien, on a l'impression que l'ampli flatulait, pour rester poli. En gros, en d'autres termes, on a l'impression que sa basse faisait des proutes, quoi. Et c'était assez pourri et c'était assez énervant à la longue. Du coup, il s'est à la fois pour compenser l'absence de guitare rythmique et aussi pour éviter que son ampli lui joue des tours, eh bien, il est allé chercher dans les sons aigus en jouant de la basse, et ça a participé aussi du son du groupe. Voilà pour l'anecdote. J'arrête là parce qu'il y en aurait plein d'autres à citer. Et un morceau qui est mythique et qui aura une portée symbolique aussi, et qui est sans doute le morceau le plus connu du groupe qu'on va écouter tout de suite, c'est L'amour nous séparera, hein, que je vous avais déjà passé pour une émission Saint-Valentin il y a longtemps d'ailleurs. Love will tear us apart. Yeah.
You don't know me, and...
Well, what do you want to know?
Your favorite color? Mine is purple.
Blue. Man City blue.
What is Man City blue?
Well, Man City is a football club.
Je ne sais pas si mon micro est branché. Ouais, super, vous m'entendez. Donc, pour l'anecdote, eh bien là, on avait un petit passage du film Control d'Anton Corbijn qui était sorti il y a une bonne douzaine d'années, où on peut entendre Ian Curtis qui disait à sa maîtresse, enfin celle qu'il avait rencontrée, Annick, lors de leur tournée en Belgique, leur seule tournée sur le continent. Eh bien, il disait que sa couleur préférée, c'était le bleu. Pourquoi ? Parce que quand il était petit, il aimait bien, et même encore à l'âge adulte, il aimait bien un club de foot des alentours de Manchester, dont le blason était bleu, justement. Et pour l'anecdote, ben, Deborah Curtis, son épouse, racontait qu'ils avaient mis une pièce de leur petite maison entièrement en bleu. Les fauteuils étaient bleus, la tapisserie était bleue, les rideaux étaient bleus, enfin, parce que Ian Curtis avait une fascination pour cette couleur. Et pour se composer, il se sentait bien entouré, baigné, nimbé de cette lueur-là, voilà, pour l'anecdote. Donc on pourrait penser qu'il avait des idées noires, ce qui était le cas, mais il les avait dans un environnement bleuté, en quelque sorte. Voilà, chers amis. Et du coup, ouais, ben, Ian Curtis, aussi talentueux soit-il, malgré la belle carrière à laquelle ils étaient promis, eh bien, a connu une histoire tristement banale, en quelque sorte, puisque le garçon marié très jeune, à 18-19 ans, avec, peut-être pas la première venue, mais une fille avec laquelle il n'était pas forcément, il n'allait pas forcément faire sa vie. Il avait un petit bout de chou, il avait ses crises d'épilepsie. Pour l'anecdote, il avait même renoncé à faire des câlins à sa petite parce qu'il avait peur d'avoir des convulsions pendant qu'il tenait la petite dans ses bras. Donc ça doit fendre le cœur de vivre des choses comme ça pour un mec. Il y a la charge mentale aussi, quand tu as un enfant que tu sens pas forcément à la hauteur. Il y a des mecs qui pètent un câble et qui se suicident dans ces cas-là. C'est hélas relativement courant. Et il y a aussi sans doute aussi les médocs qu'il prenait pour éviter les convulsions et les crises d'épilepsie aussi, qui ont très bien pu jouer dans son état d'esprit. Le fait qu'un beau jour, bah, il s'était engueulé avec son épouse Déborah quand elle avait découvert qu'il avait eu une maîtresse lors de leur tournée en Belgique. Et soit elle l'avait viré de la maison, était allé chez ses parents qui n'étaient pas là à ce moment-là, soit elle l'avait quitté, il était tout seul dans la maison. Bref, il se trouve que il était tout seul chez lui et il s'est pendu le 18 mai 1980. Voilà, en laissant les autres un petit peu déconfit et tout à fait stupéfait. Je vais pas raconter ma vie, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'est arrivé. J'avais un pote qui s'était suicidé, et même si j'étais pas la personne la plus proche de lui, c'est vrai que on reste un peu bête. On se dit mais qu'est-ce qu'il y avait chez lui que je n'ai pas su voir, et c'est trop tard. et vous êtes là comme un con avec vos doutes et vous saurez jamais, voilà. Et c'est un petit peu ce qu'ont dû ressentir ces comparses de Joy Division sur le moment. Ils n'avaient pas su voir toute la noirceur qu'il avait en lui et ce mal-être qui s'exprimait dans les paroles et qu'on peut encore ressentir aujourd'hui, mais ils n'anticipaient pas que ça aurait pu aller aussi loin, voilà, chers amis. Et du coup, ben, pour laisser le dernier mot à un philosophe autrement plus grand que je ne saurais le faire, c'était Blaise Pascal qui disait « Tous les hommes cherchent le bonheur, même ceux qui vont se pendre. » Et ben, j'espère que de l'autre côté du stick, s'ils l'ont trouvé, le bonheur, c'est tout ce qu'on leur souhaite, et Ian Curtis en particulier. Voilà, chers amis, ben, comme à notre habitude, on va se quitter avec un morceau un petit peu décalé. Un morceau dans lequel ils avaient incorporé des influences, notamment des synthétiseurs. Le résultat n'était pas toujours très heureux dans tous les morceaux dans lesquels ils ont fait ça. Il y a des morceaux de l'album Closer, notamment, qui ont vraiment mal vieilli. Mais le morceau avec lequel on va se quitter, chers amis, et on va continuer cette émission, Atmosphere, échappe un petit peu à cette règle-là. Un morceau qui correspond très bien aux ambiances très méditatives, qui correspondent à un deuil, en l'occurrence, hein, celui d'Ian Curtis. Qu'est-il arrivé aux autres membres du groupe ? Ben, après quelques temps de flottement, ils se sont investis dans un autre projet. Ils n'ont pas voulu continuer Joy Division et ils ont créé le groupe New Order et ont fait énormément de très bonnes choses avec, voilà. Et du coup, mes petits loups, on va se quitter comme ça avec ce morceau Atmosphère pour conclure cette émission spéciale consacrée à Joy Division ce soir. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine, je vous fais un gros bisou et je vous laisse avec ce morceau mythique de ce groupe culte. Et puis on écoute, et puis on apprécie, et puis on s'aime, c'est bien le principal. Salut.
It is.